La Bible comme la bibliothèque d'un peuple. Et d'abord le mot Bible, c'est du grec. Ta biblia, en grec, c'est une forme qu'on dit neutre. En fait, c'est une forme de collectif. Vous voyez, c'est un collectif. Donc, quand on dit la Bible, en fait, on est déjà dans du pluriel. Ce sont les livres. Alors, les livres sous des formes différentes, puisque jusque vers le premier siècle de notre ère, au fond, jusque au Nouveau Testament, ce sont des rouleaux. Et les livres, ça couvre aussi les rouleaux. Et ensuite, ça couvrira les livres carrés. Le codex, le livre carré que nous connaissons, qui apparaît vers le courant du premier siècle après Jésus-Christ. Alors, ces livres, tout à l'heure, il y a eu des questions sur quelle date, quand, quel auteur, est-ce qu'on connaît, quand est-ce qu'ils apparaissent, etc. C'est très difficile de répondre à ces questions. Je vais quand même après vous dire un petit essai de réponse pour ne pas vous laisser complètement attrister. Mais c'est très difficile. Pourquoi ? Eh bien, c'est à cause du processus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette espèce de processus qui est le retour sur des éléments existants qu'on ramasse, qu'on compile, qu'on annote, qu'on réécrit, qu'on juxtapose, vous voyez bien qu'on date quoi ? On date la tradition orale qui vient de l'arrière-grand-père, où on date le moment où l'arrière-petit-fils l'a écrit, ou le moment où, encore deux générations après, quelqu'un a décidé d'en faire un livre de la famille, nos ancêtres, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, il y en a moins de trois dates. Plus qu'en plus, l'arrière-grand-père, il le tenait de qui ? Voilà. Donc, c'est difficile à dater exactement, même si on est dans une enveloppe qui en gros va du, oh, je ne vais pas dire de bêtises, du 8e siècle au 3e siècle, 4e siècle. En plus, puisque c'est une bibliothèque, ce sont des livres de genres littéraires différents. Je vais revenir sur les datations tout à l'heure, mais d'abord je veux dire qu'en plus, ce sont des genres littéraires différents. Cette notion qui, dans le monde chrétien, a été introduite par le pape Pie XII en 43, l'encyclique ou 41, je ne sais plus. Divino Spiritu Afflante, quand l'Esprit Saint a soufflé, on s'est aperçu et on le reconnaît que dans la Bible, on a toute une série de genres littéraires différents. Et qui dit genre littéraire, dit technique d'écriture, projet littéraire différent. On n'écrit pas pareil quand on produit une épopée. Le livre de Josué, c'est une épopée nationale. C'est la chanson de Roland. On n'écrit pas pareil quand on refait un récit d'origine à partir de mythes anciens, où on est en partie dans le mythe, puisqu'on lui emprunte ses éléments. On n'écrit pas pareil quand on rassemble des vieilles légendes. On n'écrit pas pareil lorsqu'on écrit un conte, comme les contes de Perrault ou de Grimm. Et on a des contes dans la Bible. Ruth est un conte ravissant et merveilleux. Tellement plein de sens. Voilà. On n'écrit pas pareil quand on fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, des annales royales où on consigne, voilà, tel roi vécu de temps à temps, mourut, son ministre, etc. On consigne, voilà. On n'écrit pas pareil quand on écrit un poème. Il y a des poèmes dans la Bible et même des poèmes liturgiques, le livre des psaumes. Quand a été écrit le livre des psaumes ? Je dirais en continu depuis probablement le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e, 4e, 3e. On ajoute des poèmes, des chants liturgiques, on adapte. On a aussi les proverbes. Il y a des parties très anciennes dans les proverbes, puis il y a des parties très récentes. Bon, il y a des chants guerriers, je vous ai dit le cantique de Déborah, il y a des oracles de prophètes, en gros c'est de la haute poésie. On a des grands récits. Voilà. Donc ce sont des genres littéraires différents, et chaque fois, il faut essayer de se dire, mais attention, à quel genre littéraire ça appartient ? Si vous lisez le livre de Ruth comme un livre historique, ben vous allez chercher à quel moment de l'histoire d'Israël on a des Moabites qui sont l'ennemi héréditaire numéro un, hein, le proche voisin qu'on déteste, qui vous ont accueilli et qui en plus vous ont envoyé une des leurs pour être la patriarche la plus admirée en Israël. Ruth, voilà. On ne va pas chercher ça. C'est un conte qui a un sens. Par contre, on peut se demander aussi à quelle époque est-ce que ce conte a, lui, non pas était situé, mais à quelle époque il a été écrit et pourquoi. Quelqu'un fait un roman, à quelle époque il l'écrit et pourquoi. Et quand quelqu'un fait un roman historique, il va vous raconter l'histoire du passé, un roman historique sur je ne sais pas quoi, Isabeau de Bavière ou Aliénor d'Aquitaine. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, Régine Pernoud écrit ça? Bien sûr qu'elle va vous faire connaître Aliénor d'Aquitaine. En plus, elle est historienne. Mais elle fait quand même un peu de roman. Et pourquoi? Voilà. Donc, c'est difficile parce qu'on a plusieurs types de datation. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Alors là, c'est compliqué. Les textes bibliques ne sont pas signés. Personne ne... Alors si, on a décidé. C'est Moïse qui a écrit la Torah, les 5 premiers livres. Et puis, on s'est aperçu très vite. On cite les gens qui l'ont écrit, qui s'en étaient aperçus. Mais il y a des petits malins qui l'avaient vu bien avant. On dit qu'au 11e siècle, un commentateur juif dit « C'est pas possible, Moïse ne peut pas raconter sa propre mort, ni annoncer des événements. » D'accord, il était prophète. Enfin, c'est difficile d'annoncer des événements qui ont eu lieu 3 siècles après. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui a écrit. Bon, le monde chrétien a eu du mal à admettre ça. Mais évidemment, on l'attribue à Moïse. Moïse représente la Torah. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. Alors, qui a écrit ça? Qui a écrit la Genèse? Mais ce n'est pas nécessairement les mêmes qui ont écrit le premier récit liturgique et le second, avec en plus la transgression, la faute de l'homme et la femme, la sortie du jardin d'Éden, etc. Ce n'est pas les mêmes. Bon. Quand est-ce que ça a été écrit? J'essaierai de vous en dire un petit peu, on verra ensemble cet après-midi. Mais première question, quand chacun a été écrit? Deuxième question, qui les a mis ensemble? Qui est-ce qui a recousu? Et dans quel but? Ça, c'est le but que je vous disais ce matin, montrer qu'il y a diverses histoires et que Dieu se révèle diversement. Vous voyez les questions? Donc, en fait, entrer dans la Bible, c'est toujours se poser plus de questions qu'on a de réponses. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de questions. Et c'est très bien. Il y a, je ne sais pas quoi, un philosophe assez célèbre, juif, je crois, qui dit, c'est peut-être Lévinas, la réponse, c'est la mort de la question. Voilà, la réponse est la mort de la question. Donc, posez des questions tranquillement. Moi, on m'a toujours reproché de dire « et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Ben, je continue, si vous la direz « pourquoi ?» Ça fait avancer quand même, ça fait avancer. Alors, je voudrais montrer sur un exemple la difficulté à dater, à donner un auteur, et là, moins à définir un genre littéraire. Il y a, dans la Bible, un certain nombre d'auteurs qui signent leurs livres. Ça, c'est quand même sympa. Et ils s'appellent les prophètes. Si vous faites la liste des livres bibliques, vous verrez qu'il y a la Genèse, l'Exode, etc. Les rois, Samuel. Et à partir d'un moment donné, vous aurez, les psaumes ne sont pas signés, à un moment donné, vous aurez livre d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, voire de Daniel, et puis les petits prophètes, Osée, Amos, Joël, Sophonie, il y en a 12. Voilà, ceux-là ont signé. Parmi ces livres de prophètes se sont glissés un livre qui n'est pas exactement écrit par un prophète, le livre de Jonas, qui est aussi un conte. Mais les prophètes, c'est quand même plus facile, parce que souvent, au début de leur livre, non seulement ils donnent leur nom, avec leur patronyme, mais en plus, ils disent à quelle époque, sous quel roi, évidemment, l'époque non, mais sous quel roi, ils ont écrit. Donc, ça permet d'un peu dater. Seulement, voilà. Le prophète, il a parlé. Lui ou ses disciples ont mis par écrit, tout de suite ou plus tard, le livre de Jérémie, on voit que c'est tout de suite, puisque son secrétaire Baruch met aussitôt par écrit, et lorsque l'horrible roi a brûlé le rouleau, Dieu dit, allez, Jérémie recommence à dicter, et Baruch recommence à écrire. Donc là, on écrit. Mais avant, l'écriture, c'est un métier, hein, tout le monde ne sait pas écrire. Les grands génies ne savent pas écrire. C'est un métier d'écriture, un métier dur, le métier de scribe. Donc, il faut avoir un scribe qui écrit donc, le prophète lui-même, ou plutôt son entourage, ou un peu plus tard, ses disciples et les scribes, mettent par écrit. Déjà, ça fait des décalages dans le temps. Recueille les oracles, mettent par écrit. Je prends le petit livre du prophète Amos. Petit par sa taille, hein, il y a 9 chapitres, donc c'est vite lu. Grand par son message, et d'abord, situé dans le temps, à une époque très ancienne, c'est probablement un des plus anciens prophètes, dont on va transposer aujourd'hui quelque chose comme vers 740, 745 ou 730, hein, on n'est pas à 10 ans près, quand déjà on a un siècle, c'est formidable, avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Israël est, il a pratiquement toujours été, on en reparlera, divisé en deux royaumes, un royaume du nord qui va disparaître dans les 25 ans qui suivent, complètement écrasé par la Syrie, avec déportations massives, et un petit royaume du sud. Amos est un prophète, dit-il, appelé par Dieu. Il était, on ne sait pas trop quel était son métier, il s'occupait des animaux, soit des bœufs, soit des moutons, dans le royaume du sud, appelé par Dieu pour aller parler dans le royaume du nord et prêcher la conversion, parce qu'il y règne une injustice sociale majeure. C'est un pays riche. Les grands propriétaires ont d'immenses propriétés, font travailler et exploitent à mort les pauvres paysans. Voilà. Et donc le fossé, la fracture sociale n'est pas d'aujourd'hui, elle est déjà énorme dans le livre d'Amos. Et puis les juges sont corrompus, et puis les marchands au marché faussent les balances. Enfin, c'est affreux. Et donc, ils ne s'intéressent absolument pas à l'avenir du pays et ont tendance à se laisser envahir petit à petit par les Assyriens. Donc finalement, Amos doit bien sentir que la fin est proche. Et donc l'essentiel du livre d'Amos est un livre de vitupération, de cris contre ces grands propriétaires qui font partie de la cour, qui vivent grassement, qui exploitent les autres et qui ne font rien pour préserver le pays de la menace assyrienne. Et le livre est sinistre. Voilà, sinistre. Avec quelques exemples, il y en a quelquefois lu dans les célébrations, c'est sinistre et à la fois c'est d'une actualité sidérante. Or, c'est le plus ancien. Et il termine, c'est pourquoi ils vont être déportés. Alors ça, ça a peut-être été ajouté le bout de phrase après. Hein. En tête des déportés est finie la bande des vautrés. Jamais je n'oublierai, dit Dieu, aucune de leurs actions. En ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi. J'enténèbrerai la terre en plein jour. Je ferai tourner en deuil vos fêtes. Je vous ferai porter le deuil comme celui d'un fils unique. Tout ça après avoir dénoncé tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Les femmes sur leur lit d'ivoire, les marchands qui trichent. Voilà. Donc Dieu va punir. Et ça dure pendant 8 chapitres et demi. Donc la majeure partie du livre d'Amos, avec un endroit, un peut-être, si vous acceptiez de vous repentir, peut-être le Seigneur pourrait faire un effort pour vous. Mais enfin, c'est tout. C'est lourd, le livre d'Amos. Et ça se termine, pas tout à fait, 9-10, c'est par l'épée qu'ils vont mourir tous les coupables de mon peuple, eux qui disaient, il ne s'approchera pas, il ne nous atteindra pas, le malheur. Donc insouciance, inconscience et un espèce de c'est trop tard qui résonne pendant 9 chapitres. On est là un peu, bon, si c'était pour nous dire ça, ça nous secoue, mais c'est pas gai et ça va mal finir. Et puis tout d'un coup, je vous ai donné la suite des versets, donc après, il ne nous atteindra pas le malheur. Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David, j'en colmaterai les brèches, j'en relèverai les ruines, je la dresserai comme au jour d'autrefois. Voici que viennent des jours oracles du Seigneur, où les montagnes ruissellent de vin et de blé. Je change les destinées de mon peuple Israël. Ils rebâtissent des villes dévastées, ils y plantent des vignes pour en boire le vin, ils cultivent des jardins pour en manger les fruits. Je les plante sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Ah, ça va mieux. Voilà, on a un tout autre ton. Tout d'un coup, dans ces 5-6 derniers versets du livre d'Amos, on est à une autre époque. D'ailleurs, ce qui nous le montre, c'est qu'il s'agit de la hutte croulante de David. La descendance de David, elle n'a pas régné dans le royaume du Nord. Elle a régné dans le royaume du Sud, Jérusalem, et non pas Samarie au Nord. Donc ça, ça s'adresse bien à un pays qui est le royaume du Sud, qui lui a subsisté, et qui donc essaye de survivre. Ça s'adresse peut-être même à ce pays lorsque lui-même, à son tour, a été pris sous la menace babylonienne, on ne sait pas. En tout cas, il y a un oracle de renouveau qui s'adresse à un petit pays restant, alors que celui du Nord a disparu, comme s'y attendaient Amos et Osée à la même époque, dit la même chose, et qui lui annonce finalement une ère de prospérité, de bonheur, un retour de l'accompagnement du Seigneur. on voit bien que ça n'a pas été écrit à la même époque. Que cette finale du livre d'Amos, elle a été ajoutée quand ? Beaucoup plus tard, dans le royaume du Sud, soit sous la royauté, c'est pas sûr, soit peut-être même au retour d'exil, encore, quand ils sont tous partis en exil, un siècle et demi après, peut-être simplement au cinquième siècle, au quatrième siècle. Donc, au fond, il y a entre les deux parties du livre d'Amos, au mieux, 3 siècles de différence. On a repris le livre et les oracles d'Amos avec leur tonalité sinistre. On ne leur a rien enlevé, parce que ça reste et que ça doit rester. D'ailleurs, on a à l'entendre encore aujourd'hui. Mais on y ajoute cet oracle d'espérance, parce que, au fond, les prophètes sont là pour toujours relancer l'espérance. Un prophète, c'est jamais quelqu'un qui annonce l'avenir. C'est quelqu'un qui dénonce ce qui ne va pas et qui dit, si vous vous retournez vers Dieu, Dieu est prêt à remarcher avec vous. Ça va ? Mais vous voyez, alors, maintenant, datation. Ben, j'ai au moins 2 dates. La première n'est pas très floue, parce que de toute façon, il faut que ça soit avant 721, où le royaume du Nord a disparu. Là, c'est bien, on a une date au moins. On sait que c'est avant, 20 ans, 30 ans avant, combien ? Et on a une deuxième date qui est beaucoup plus floue, peut-être au retour d'exil, mais enfin, beaucoup plus tardive. De quand date le livre d'Amos ? Qui est l'auteur ? Le vieux prophète du 8e siècle, dont on a un peu transformé les choses, puisqu'on a connu la déportation, donc on ajoute les déportés, vous voyez, dont on a transformé un peu les oracles, mais on a gardé vraiment l'essentiel. Ou l'auteur anonyme, mais qui prend aussi le nom d'Amos, puisqu'il s'écrit dans le livre d'Amos, du 6e siècle au 5e siècle, et qui ajoute le rack d'espérance. Le livre d'Amos, c'est la totalité. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. C'est les deux ensemble qui fonctionnent nécessairement ensemble. Au plus profond du trou et du désespoir, il y a toujours place pour un petit oracle d'espérance. Et c'est ça la leçon du livre d'Amos. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça met en cause un peu la notion d'auteur. Amos, alors, la tendance de la critique historique à travers les siècles, surtout, enfin ça date de 3 siècles, hein, surtout au 19e, a été de dire « le vrai, c'est le plus ancien ». Oui, oui et non, enfin bon, il y a eu un très ancien. Mais non, le vrai, c'est peut-être aussi le plus récent, celui qui reprend en charge la totalité du livre, hein, et le boucle. Voilà le problème. Vous voyez, datation, auteur, reste le genre littéraire, là ce sont des oracles, avec une part de poésie évidente. Vous voyez bien la part de poésie. Et dans les oracles de malheur, les comparaisons, Jean de la Nèvre aurait la terre en plein jour, le deuil comme d'un fils unique, le Nouveau Testament va le reprendre, ça. Le soleil qui s'éclipse au moment où Jésus meurt, le deuil comme d'un fils unique, c'est le souvenir du livre d'Amos, hein, et de la menace dans le livre d'Amos. Si vous continuez à commettre des crimes, voilà. Vous aurez à vivre ça. Bien sûr que c'est poétique. Et la fin aussi est poétique. Non pas seulement ils planteront des vignes, ils mangeront, ils boiront, mais je les plante. Voilà, ils sont devenus la plantation du Seigneur. Et ça, l'apôtre Paul le reprend dans la première aux Corinthiens. Vous êtes la plantation de Dieu. Voilà. Et moi, je vous ai planté. C'est le Seigneur qui vous fait croître, mais c'est moi qui vous ai planté. Vous êtes la plantation de Dieu. Notre Ancien Testament va être tout nourri de la poésie et des visions et des écritures de notre Nouveau Testament, tout nourri de cet Ancien Testament. Et ni les évangélistes ni Paul ne se demandent si c'est le premier Amos ou le second Amos. On est nourri du livre d'Amos et on l'actualise sans arrêt. Ça va ? Ça, vous comprenez la difficulté, voilà. Alors, du coup, je réponds un peu à vos questions. Je vais y répondre quand même un peu plus après. Vous allez voir. Je ne vais pas être aussi... Je vais d'abord dire, avant d'y répondre, qu'on voit bien, au fond, comment ces textes ont pu donner, depuis 2-3 siècles, naissance à des interprétations diverses. Alors, il faut d'abord ajouter qu'au cours des siècles, ils ont été, dans la tradition juive, d'abord, dans la tradition chrétienne ensuite et aussi au même moment, sans arrêt relus, interprétés, travaillés. La tradition juive est énorme, qui, autour de ces textes, a produit des textes de recherche, des midrash, a produit des textes de loi, et ressasse sans arrêt, a produit d'énormes talmuds et a produit des tas d'autres œuvres, en relisant, remâchant, interprétant, faisant jouer. Bon. La tradition chrétienne aussi, les pères de l'Église relisent et interprètent ces livres. Et eux, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est un premier Amos ou un second Amos. De toute façon, pour eux, tout ça nous parle du Christ. Voilà. Et de Dieu qui se révèle. Et ils interprètent et ils lisent. Tous ces textes sont devenus des réservoirs de réflexion, de méditation, de théologie dans l'une ou l'autre tradition. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, est apparue la raison critique, les méthodes historiques, la remise en cause de la lecture des textes anciens, avec Richard Simon, avec toutes les traditions. Et ça a donné, notamment, un grand développement dans l'Allemagne du XIXe siècle. Aujourd'hui, la recherche est passée surtout aux États-Unis, mais enfin, il y a eu les Allemands, les Anglais, les Français, etc., les Italiens, les Espagnols, bon. Ça a donné ce qu'on a appelé la recherche critique, l'exégèse, c'est-à-dire l'étude du texte biblique, historico-critique. Alors, ce n'est pas un gros mot, historico-critique, c'est la recherche historique faite avec la raison critique. C'est-à-dire, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure, mais alors, quel rapport à l'histoire? Mais quand ça a été écrit? Mais par quel auteur? Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même Amos. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Vous voyez bien qu'il y a deux récit de création dans la Genèse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par découper les textes en petits morceaux et par chercher, dans ces petits morceaux, ça a été un peu la fascination. Quel est le plus ancien? Ça a été la fascination de la recherche de l'exégèse. Le plus ancien, bien sûr, c'est le prophète Amos, qui vitupère contre le royaume riche du Nord. Oui, voilà. Quel est le plus ancien? Mais est-ce que le plus ancien, c'est le seul et c'est le vrai? Pas sûr, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a cherché quel est le plus ancien, puis on a cherché, et ça c'est très intéressant, à contextualiser chacun des morceaux. L'Amos du Nord, en 740 ou quelque chose comme ça, qui dénonce l'insouciance et l'injustice des grands propriétaires. La reprise du livre dans le Sud, au moment où on va rentrer dans le pays et où le Seigneur va permettre au royaume du Sud de renaître. Voilà, on a cherché à contextualiser chacun des morceaux. Ça, c'est la grande... Et c'est vrai pour le Nouveau Testament, hein, c'est pareil. On a les paraboles, les miracles. Alors, il y a des collections de paraboles, des collections de miracles. À quelle époque, comment ça s'est mis en forme, pourquoi, voilà. Ensuite, c'est posé la question, mais elle est venue plus tardivement, de tout ça a été quand même recousu ensemble, remis en forme par quelqu'un qui lui a donné un sens. Pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, dans ce type d'exégèse, on a appelé ça le rédacteur final, qu'on regardait avec un mépris, le gars qui a juste recousu les morceaux. Bon, recousu les... Mais non, mais attendez, le théologien, c'est aussi lui. C'est lui qui a repensé, ou c'est eux, bien sûr, qui ont repensé cet ensemble. Vous voyez le problème? Donc, l'exégèse historico-critique a fait un travail essentiel, fondamentale, d'une richesse incroyable, qui peut se continuer. Thomas Romer, professeur au Collège de France, continue à travailler sur les civilisations environnantes, etc. Le travail est loin d'être fini. Et ça nous donne, au fond, un effort de datation des différents morceaux de la Bible, un effort d'histoire de la reconstitution, des comparaisons avec tous ces emprunts que je vous ai montrés tout à l'heure. Je m'appuie sur leurs travaux. Ça va ? À un moment donné, on a dit non, ça va bien comme ça, il y a des gens qui vont continuer ça, mais il faut aussi faire autrement. Il faut faire droit au dernier rédacteur, parce que c'est lui qui a mis le point final. C'est une figure, hein, le dernier rédacteur, il y en a beaucoup. Ils ont mis le point final et ont décidé, et un jour on a fermé le canon, c'est ça la Bible. Et ça, ça a un sens. Et chacun de ces textes a été travaillé comme ça. Un jour, la Genèse a été bouclée. Avec les deux récits de création, le déluge, il y a deux récits de déluge aussi, avec Abraham et les contradictions, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph aussi. Voilà. Tous ces textes doivent être aussi lus pour eux-mêmes Et il faut lire aussi chacun des textes, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'histoire du petit Samuel, comme un texte qui a une structure de conte. Dieu appelle trois fois et le jeune homme répond trois fois et il y a quelqu'un qui vient l'aider à comprendre. Voilà, il y a une structure de conte. Et on a appliqué les méthodes de lecture du conte à un bon nombre, ou du roman, à un bon nombre de ses œuvres. Et ça donne évidemment une lumière formidable, parce qu'on prend l'ensemble et on dit, mais enfin, quel est le sens de ce livre? Quel est le sens de l'histoire d'Abraham? Où ça va? Qu'est-ce que ça nous apprend? Et on le traite comme une œuvre littéraire à part entière. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'exégèse narrative. Narrative, c'est-à-dire qui raconte, qui s'occupe des récits et qui travaille sur les récits. C'est ce fait énormément aujourd'hui. Il ne faut pas que l'une oublie l'autre. Vous avez des livres passionnants de lecture narrative de la Genèse. Les 11 premiers chapitres d'abord, Abraham ensuite, Jacob ensuite, et maintenant Joseph, par l'exégète belge André Wénin, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, qui est un type formidable, mais qui s'enferme dans la lecture narrative avec des apports psychanalytiques, machin, et ne tient absolument pas compte de l'historico-critique. Et là, je dis non, il a tort. Il faut tenir compte des deux. Les notes du Bible en bas de page, elles sont éclairantes. Elles sont éclairantes parce qu'elles contextualisent, d'accord ? Et qu'elles montrent pourquoi, à des moments, il y a des jointures un peu bizarres que l'exégèse narrative a essayé d'expliquer et dont on se dit parfois, bon, d'accord, il fait des efforts, mais son affaire, c'est raté, ça ne marche pas. Hein. Tout n'est pas vraisemblable dans les constructions, les juxtapositions, les coutures faites par les derniers rédacteurs. Tout ne s'explique pas de façon lisse, mais c'est fait exprès. C'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de dire, plusieurs possibilités. Oui, on recoud de façon à ce que ça soit à peu près cohérent, mais on laisse visibles les coutures. Et déjà, les pères de l'Église avaient vu ça. Et déjà, les pères de l'Église disaient, ce qui est Origène, le grand commentateur de la Bible, disait, ce qui est intéressant sont les coutures. C'est là où ça coince, là où ce n'est pas vraisemblable. Parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose à creuser. Donc voilà, quand vous entendrez parler d'exégèse narrative, ben vous pouvez lire, parce que alors ça se lit beaucoup plus facilement, c'est beaucoup moins technique, même s'il y a un peu les techniques de la narration, mais enfin ça, vous l'avez fait en passant le bac avec les textes littéraires, en gros, on comprend mieux. Pour les discours, c'est la rhétorique qui va être utilisée. Un discours, ça a une introduction, une conclusion, on flatte le commanditaire, ou on flatte le juge si on est devant le tribunal, après on argumente, on donne des exemples, voilà. On étudie avec les outils contemporains. Ça va ? Deuxième type d'exégèse. Dernier type d'exégèse, vous entendrez aussi parler de l'approche canonique. C'est récent, mais ça, c'est intéressant. C'est dire, au fond, il y a eu un jour, on en reparlera, une clôture du canon. C'est-à-dire, on a dit, la Bible s'arrête là et pas ailleurs. Alors, en fait, il y a débat entre, il n'y a pas le même canon pour les Juifs, pour l'Ancien Testament, pour les Juifs et pour les chrétiens. Il y a débat entre les protestants, les catholiques et les orthodoxes. La Tobe à tout le monde, les canons de tout le monde. Mais même entre nous, chrétiens, on ne s'entend pas. Ceci dit, il y a quand même un moment où on arrête. Et ça, ça a un sens. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire jouer les livres les uns par rapport aux autres. Vous voyez ? La Genèse, ce n'est pas un livre isolé. Il y a l'Exode après. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? C'est très intéressant. Il se passe qu'on abandonne Joseph en Égypte, grand vizir du Pharaon, nourrissant tout le monde, sa famille, etc. Et on se retrouve au début de l'Exode avec « Il vint un nouveau Pharaon qui ne connaissait pas Joseph ». L'histoire recommence, mais celle-là, ça va aller mal. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux livres ? Pourquoi l'Exode est reprise dans le Deutéronome autrement ? Pourquoi on peut mettre des choses en parallèle avec Isaïe ? Vous voyez, on prend la Bible comme un grand ensemble littéraire dont les échos doivent jouer. Ça se termine par l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, ça se termine par « Viens Seigneur Jésus ». Et il faut mettre l'Apocalypse en lien avec le début de la Genèse. La Genèse commence par « Au commencement », en un commencement, en tête, comme vous voulez, c'est dur de traduire l'hébreu. L'évangile de Matthieu, début du Nouveau Testament, commence par « commencement », c'est fait exprès, évidemment, de l'évangile, de la Genèse de Jésus-Christ. Commencement de la Genèse. Évidemment que Matthieu, il fait écho au livre de la Genèse. C'est une nouvelle création qui commence. D'accord ? Avec un homme nouveau, Jésus-Christ. Donc, mettre la Bible en écho comme ça, ça fait comprendre des tas de choses. Alors, on a appelé ça une approche canonique. Vous oubliez si ça vous ennuie, c'est non. Mais voilà, sachez qu'il y a toute cette pluralité d'approches qui sont des approches chrétiennes. Les approches juives sont encore très différentes et tout aussi riches. Eux, ils font jouer tous les versets, tous les points d'une écriture, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà. Ça va jusque-là ? Bon, alors, avançons un peu. Maintenant, je vais essayer de vous consoler. Le début de la deuxième Isaïe, c'est « consoler, consoler mon peuple ». Je vais essayer de vous consoler. On a quand même l'idée d'un moment où, au moins pour les cinq premiers livres, ce qu'on appelle en hébreu la Torah, en grec le Pentateuque, en français souvent le Pentateuque, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Ou Lévitique, non, Lévitique, Deutéronome. On a pour les cinq premiers livres une idée quand même, non pas du moment où tout a été écrit, mais du moment de la mise en forme finale. On a une idée. Il y a un auteur du deuxième moitié du XXe siècle qui a commencé à parler, alors un historien des religions anciennes, qui a regardé une vaste panoplie de religions allant jusqu'en l'Extrême-Orient, qui a parlé de l'époque axiale. En même temps, il fait de la sociologie, il a regardé comment, à quel type de population et de forme de gouvernement et de gouvernance des populations ça correspondait, autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le VIe siècle, c'est de 599, en gros, à 500. Ça va ? Comptez à l'envers. Hein ? Et il regarde, et il dit, ben voilà, on a quand même une émergence de fondateurs de religions étonnantes. Pas au même moment exactement, mais quand même à cette époque-là, avec probablement un peu partout un affaiblissement des grands empires et la montée de bourgeoisie cultivée, de bourgeoisie, de gens riches, commerçants surtout, cultivés. Et il regarde, ça donne effectivement en Inde, et puis ensuite dans les pays d'Asie, ça serait pas envie, le Bouddha, avec l'énorme tradition bouddhiste et toute la littérature. On a effectivement, alors plus anciennement, les Avestas en Inde, mais bon, à cette époque en Chine, Confucius et la sagesse confucéenne, qui a marqué lourdement toute la pensée chinoise, même si le bouddhisme est présent, même s'il y aura la voie du Tao, etc. Le Tao d'ailleurs aussi un peu guère plus tard. On a en Perse Zoroastre, dont vous entendez parler sous la forme de Zarathoustra, une religion dualiste du feu et de la lumière. On a en Grèce les présocratiques, c'est-à-dire ceux qui font passer des mythologies cosmiques d'Hésiode, les mythes, les grands mythes d'origine de l'humanité avec les titans, les géants, etc., à une pensée plus, un peu plus cosmologique, rationnelle, les éléments, la terre, le feu, l'eau. On avance vers la raison critique grec, qui sera plus tard. Mais c'est à cette époque-là, c'est le VIe siècle, les présocratiques. Et on a, en Israël, l'exil à Babylone, dont on reparlera, 587, 538 ou 520, à peu près, enfin ça couvre l'essentiel du VIe siècle, avec l'affirmation, là de façon beaucoup plus nette avec le deuxième Isaïe, du Dieu unique. Je suis, moi, Dieu, alors le nom divin, en dehors de moi, rien. C'est moi qui ai fait, je suis moi Dieu, j'ai tout créé, le ciel, la terre, le bien et le mal, un seul. Voilà, donc une époque qui est une époque de réflexion, de méditation à partir de grandes richesses antérieures. Personne ne nie la richesse, par exemple, de tout le patrimoine indien. Mais voilà, une efflorescence de grands fondateurs de traditions religieuses. Et ils disent, eh bien, ça correspond quand même à cette époque de l'exil et qui va ensuite être suivi par le retour en terre de Judée, parce que le nord a disparu, sous domination perse, des Juifs qui ne sont pas restés, beaucoup sont restés à Babylone, on en reparlera, mais de ceux qui ont décidé de rentrer et de porter haut et fort leur foi au Dieu unique et leur identité de peuple de ce Dieu. Voilà. Donc on a là, à ce moment-là, probablement en exil et après, mais surtout en exil, une immense entreprise de rassemblement des traditions d'Israël. Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui a été emmené en exil à Babylone ? J'en reparlerai, mais au contraire des Assyriens, qui déportaient toute la population, paysans compris, et qui réimplantaient une autre population sur place. Ça s'est largement fait dans l'histoire, et nous en souffrons actuellement, des déportations de Staline. Voilà. Et bien, les Assyriens faisaient ça, vous voyez, le modèle est ancien, 720 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens étaient différents. Eux, ils déportaient les élites. Qui c'est les élites ? Le roi et sa cour, les élites intellectuelles, les scribes qui savaient écrire et les artisans. Parce que l'élite des élites, c'est les artisans, ceux qui savent construire, bâtir, faire des objets, etc. On laissait sur place les paysans, les pauvres gens, etc. Et donc tout le monde n'était pas parti. Et ceux qui étaient partis étaient, d'une certaine façon, des gens qui avaient la capacité d'emporter avec eux des traditions orales et écrites, des rouleaux, des choses, voilà. Et parmi eux, un certain nombre de gens qui arrivaient à Babylone, où ils n'ont pas été maltraités, hein, ils n'ont pas été maltraités. Le roi en exil était reçu à la table du roi de Babylone. Jérémie leur écrivait « Installez-vous, construisez des maisons, plantez des vignes, ayez des enfants, allez-y. » Ils n'ont pas été maltraités, mais le risque était de se fondre dans une population beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus avancée du point de vue civilisation, beaucoup plus entraînante du point de vue des dieux. Et puis, on avait été vaincus. Quand vous avez été vaincus, c'est que votre dieu, soit vous a laissé tomber, soit a été vaincu aussi. Donc le risque, c'est de dire, ben, les dieux des Babyloniens, c'est ceux qui ont gagné, si on changeait. Et il y a eu à Babylone une réaction très forte d'un petit nombre de juifs fidèles qui ont dit, non, 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 il faut garder notre identité. On en reparlera, mais ils ont gardé leur identité. Et pour ce faire, garder nos traditions. Et ils se sont mis à rassembler, à compiler, à écrire, si ce n'était pas écrit. Voilà. Et c'est là, probablement, que s'est mis par écrit l'essentiel de ce qui fait la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Peut-être aussi des grands prophètes, Jérémie, Isaïe, mais les prophètes, ça a continué après. Et leurs livres ont été bouclés plus tard. Voilà. Et dans ces cinq premiers livres, on a, et là aussi c'est intéressant, clairement, ça a été détecté par l'historico-critique qui continue. On a visiblement, chez ce petit groupe de gens qui défendaient finalement un judaïsme identitaire parce qu'ils voulaient survivre autour du Dieu unique, on a des divergences fortes. On a des traditions à l'intérieur de cela différentes. On a des traditions de gens qui ont, finalement, on en reparlera du Deutéronome, une tradition éthique très forte, identitaire et éthique très forte. On doit respecter l'autre, l'orphelin, la veuve, même l'étranger, etc. On a une tradition plus libérale et en même temps plus universaliste, moins tentée par le repli identitaire que celle des prêtres, qui sont beaucoup plus finalement cool que les deutéronomistes. Et on voit, ça l'historico-critique l'a bien montré, que les cinq livres de la Torah sont souvent une couture ensemble des choix faits par ces différentes traditions. C'est déjà un consensus différencié. On a pris finalement les textes, les traditions, les avis des uns et des autres, et on les a cousus ensemble. Et on en a fini par en tirer, alors pas tout de suite peut-être, mais quand même, les éléments essentiels de ce qu'allait devenir au siècle après, à Jérusalem, la Torah. Ça va, ça c'est un peu compliqué, mais ça vous donne une petite réponse à vos questions de tout à l'heure. Les derniers auteurs, ceux qui ont pour la première fois conclu, ce sont ceux parmi les déportés à Babylone, qui étaient déjà une élite intellectuelle et artisanale, qui avaient emmené avec eux leurs traditions et qui ont voulu parmi eux garder une identité forte, avec des rites, on en reparlera, etc., et qui pourtant avaient déjà des textes, j'allais dire, propres, différents, et des idées un peu différentes sur la façon dont Dieu se révèle, sur l'alliance, etc. Ça va, ça ? Et donc, on a déjà un consensus. Oui, il y a une question. Comment ? Alors, non, différents les uns avec les autres dans leur tradition, dans les textes qui montraient comment Dieu créait, comment Dieu se révélait, quelle était la loi de Dieu. Tous n'avaient pas le même texte de loi. Tous n'avaient pas les mêmes récits d'alliance. Tous n'avaient pas les mêmes traditions de création. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y avait des accents différents. Certainement, du côté des prêtres, mis davantage sur quelque chose de rituel, déjà. Du côté des scribes deutéronomistes, mis sur la morale, l'éthique. Voilà. C'est ça, les influences différentes. Et parfois aussi, des noms de dieux différents. Les uns parlant plus volontiers d'elle, le dieu du ciel. D'autres plus volontiers du dieu unique, qui va être le reconnu par tous. Mais on garde les noms anciens des autres traditions. Ça va ? C'est là que ça se fait, cette espèce de mise, juxtaposition ou recouture ensemble de points de vue différents, même sur le nom de Dieu, la façon dont Dieu se révèle. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Non ? C'est vous qui posiez la question. Voilà. En fait, j'ai dit que ça se faisait... Je regarde l'heure pour pas être en retard. J'ai dit que ça se faisait... Pendant l'exil, en réalité, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Et il y a un texte qui témoigne, alors je ne vais pas vous le lire maintenant, on le lira peut-être qu'en janvier, mais vous pouvez aller lire. Un texte qui témoigne de cette clôture, de cette première clôture de la Torah, des cinq premiers livres, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, qui est la présentation au peuple de la loi par Esdras, on est donc retourné dans la terre, on s'y réinstallé, on est au 5e siècle, donc si on y retourne, c'est vers 520-500, et là, on est vers 450 ou même 400, donc bien 50 ans après, au moins, et où Esdras, qui est à la fois prêtre et scribe, donc les dieux à la fois, va lire devant tout le peuple le livre de la loi de Moïse. Il y a une grande cérémonie, célébration de lecture de la loi, et ça se termine par à la fois un repentir et une grande fête, un mouvement de joie. Voilà. Ça nous dit quelque chose de la clôture de cette Torah, vous voyez quand même, qui a mis certainement un ou deux siècles. Voilà. Puisque nous sommes dans les dates, continuons. On a aussi, et là de façon historiquement bien située, la certitude, par des textes juifs et grecs qui le disent, le fait qu'entre 285 et 282, en Égypte, à Alexandrie, alors là, on a changé de maître, on n'est plus sous les Perses, on est sous les Grecs, les descendants d'Alexandre. Le roi d'Égypte, qui est un Grec, un Ptolémée, avec son bibliothécaire, alors c'est compliqué, pourquoi ? Bon, je vous raconterai ça une autre fois, Démétrios a fait traduire les cinq premiers livres de la Bible, la Torah, qui était donc la loi des Juifs. Il y avait de très nombreux Juifs en Égypte, hein, au moins un ou deux quartiers sur cinq à Alexandrie. Et ils voulaient avoir leur loi, parce que c'est embêtant d'avoir sous son pouvoir des peuples qui ont leur propre loi dans une langue qu'on ne comprend pas. Il les a fait traduire en grec. Et la traduction a été faite à cette époque-là, donc là on peut le dater, début du 3e siècle avant Jésus-Christ, la Torah au moins est traduite en grec. Et c'est la traduction des Septante. On en reparlera. Septante, qui est la traduction grecque, d'abord des cinq premiers livres de la Bible, qui vont dès lors s'appeler les cinq rouleaux, Pentateuque, et ensuite, pendant le siècle qui va suivre, et même pendant un siècle et demi, on va continuer à traduire en grec. Ce qui m'amène à votre question sur les langues de la Bible. C'est ça la question. Alors, la Bible, c'est compliqué parce que justement, il y a eu la Bible hébraïque et il y a la traduction en grec. La Bible hébraïque est écrite en hébreu et lue en hébreu jusqu'aujourd'hui. Et chaque enfant juif, pour la bar mitzvah, doit savoir lire au moins quelques versets et réciter de la Bible hébraïque. Et c'est un texte qui s'est fixé Alors, le canon est fixé, on ne sait pas bien, mais vers le IIe siècle. Et la lettre du texte, la façon dont on doit le lire, parce que l'hébreu, c'est consonantique. Alors, quand vous avez une petite aspiration M et R, vous pouvez lire Emre, vous pouvez lire Amour, vous pouvez lire Amer, vous pouvez lire Émir. Si ce n'est pas écrit, si vous ne savez pas la langue, vous lisez ce que vous voulez. C'est consonantique. Les lettres ont été fixées, la façon de vers le 7e, 8e siècle, peut-être même 9e, après Jésus-Christ. Très tardivement. C'est ça qu'on lit aujourd'hui. Texte hébreu. Et il ne bouge plus. On peut l'exploiter à l'infini. Toute petite lettre de la loi peut être exploitée, expliquer tous les points, mais on ne bouge plus. Il y a quelques passages en araméen, je laisse tomber. C'est une langue parente, on en reparlera. La Bible a été traduite en grec. Ce texte hébreu a été traduit en grec pour la Torah au début du IIIe siècle, pour le reste jusque vers 120, 130. Et des livres uniquement écrits en grec qui ont été ajoutés. Ça s'appelle la Bible de la ou des Septante. Il y a une légende, 70 vieillards qui ont traduit tous la Bible et ils ont trouvé, fait la même traduction, donc elle était inspirée, peu importe. Voilà, traduction grecque. C'est cette Bible grecque avec, évidemment, dans la traduction, des différences. Tout le monde sait que traduttore, traditore. Le traducteur, c'est un traître. Moi, j'ai passé ma vie à traduire. Il n'y a rien de si difficile de traduire que de traduire. Et traduire, c'est trahir le texte, évidemment. Surtout quand on passe d'une langue sémitique, qui n'a pas de temps. Il y a juste c'est accompli, c'est inaccompli. Au grec, qui est puissamment structuré en temps. Quand on passe d'une langue qui fonctionne sans pratiquement règle grammaticale, par juxtaposition des mots, le chinois d'aujourd'hui, à une langue qui est articulée comme il faut, avec des conjonctions de subordination, de coordination, le grec des orateurs, c'est incroyable, des phrases de 10 lignes, toutes entières, bâties, articulées, qu'il faut démonter, dont on peut faire le schéma. Quand on passe d'un monde à un autre, parce que Alexandrie, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas la tradition juive, voilà. On trahit, évidemment. Bon, même si on essaye de faire, il y en a qui ont essayé de faire le plus proche possible, il y a même des traductions qui sont presque des juxtalinéaires. Un mot, mais c'est rare. Voilà. N'empêche que c'est cet Ancien Testament, c'est cette Bible en grec, la Bible des Septante, qui va être récupérée par les chrétiens. Les disciples de Jésus parlaient araméen, lisaient peut-être, et même sûrement, quand ils savaient lire, la Bible. En tout cas, l'entendez en hébreu à la synagogue, mais traduite aussitôt en araméen, ça s'appelle le Targoum, dans leur langue à eux, qui est la langue cousine. Mais ce n'est pas évident, vous savez l'hébreu, vous ne savez pas l'araméen. Si vous savez l'espagnol, vous ne savez pas le portugais. Et si vous dites que c'est la même chose, vous allez vous faire tuer des deux côtés. Voilà. Donc, ils l'entendaient, mais les auteurs du Nouveau Testament lisaient la Bible en grec. Et cette Bible est devenue, à un moment donné, l'Ancien Testament des chrétiens qui ont ajouté, tardivement, 2 siècles après, leur Nouveau Testament. L'Ancien Testament des chrétiens, au moment où, là je suis après Jésus-Christ, après le 1er siècle, les Juifs de leur côté ont dit « on n'en veut plus ». On n'en veut plus, ce texte grec. Il est phagocyté par les chrétiens qui y voient leur Messie à toutes les lignes. On n'en veut plus. L'hébreu, rien que l'hébreu, ça marche ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en avait qui ne savaient pas le grec, donc on a fait qui ne savaient pas l'hébreu, on a fait des traductions. En gros, c'est ça. Si bien que l'Ancien Testament des chrétiens, contrairement à ce que vous donne la Tob et la plupart des... et toutes les Bibles actuelles, ce n'est pas la Bible hébraïque, c'est la Septante. Ce que nos frères orthodoxes nous disent aujourd'hui haut et fort, en disant « mais travaillez la Septante, voyons !» Ça va ? C'est compliqué de savoir ça, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Et notre Nouveau Testament est nourri de cet Ancien Testament grec, avec aussi, parce que c'est des gens qui vivaient aussi, qui venaient du monde juif, une connaissance souvent très grande de la traduction en araméen de la Bible hébraïque. Donc souvent, il y a aussi des traditions qui viennent par l'araméen de la Bible hébraïque. Ça va ? De toute façon, elles sont quand même la traduction l'une de l'autre. Voilà. Dernière chose, avant de vous renvoyé à la librairie. J'ai encore un peu de temps. Un petit mot sur les façons de se référer au livre. La tradition juive, je vous l'ai dit, a fixé le texte hébreu jusque dans sa lecture. On doit lire comme ça. Les rabbins la commentent à l'infini. C'est le Talmud. Mais, c'est la Mishnah, le Talmud, etc. La Gemara. Avec des règles précises. Avec des règles précises et des traditions d'interprétation. N'empêche que ça peut... C'est vraiment le texte aux éclats. Et c'est merveilleux, mais j'y connais rien. La tradition chrétienne, elle, a gardé un texte. Et là, c'est la mise par écrit qui nous intéresse parce que nous travaillons sur des manuscrits qui remontent au mieux, pour des petits morceaux, à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, 3e siècle, 4e siècle, et c'est déjà merveilleux. Mais les textes n'ont pas été fixés comme le texte hébraïque, même si le grec, on le lit toujours de la même façon. N'empêche que d'une copie à l'autre, les scribes, ils se trompent et parfois ils corrigent parce que le texte ne leur plaît pas. Donc je barre et je mets autre chose. Et la tradition chrétienne n'a jamais fixé le texte de la Septante, ni même le texte du Nouveau Testament. Il y a des variantes, il y a des choses qui bougent, parce que la relation au livre n'est pas la même. C'est une relation, comme dit Paul, selon l'esprit et pas selon la lettre. Nous ne lisons pas selon la lettre. Et tout fondamentalisme chrétien se plante, parce qu'on ne lit pas selon la lettre, on lit selon l'esprit. D'où le fait qu'on peut et qu'on doit traduire dans toutes les langues de la terre. Vous relisez le récit de Pentecôte, ils l'entendaient chacun dans leur propre langue. Chacun doit entendre la Bible dans sa propre langue. L'Alliance biblique a actuellement traduit la totalité de la Bible dans plus de 700 langues, et le Nouveau Testament dans plus de 2000, je crois. Si on compte les langues parlées par quelques milliers de personnes, il y en a 4 ou 5 000, et on avance vers une traduction pour tout le monde. Voilà, dans toutes les langues. Et donc, avec toutes les trahisons, si vous traduisez en lao ou en cambodgien, il n'y a pas de mot pour dire Dieu. Il faut dire le ciel. Ça change les choses. Ah oui, mais comment on fait ? Voilà. Eh bien, ça ne fait rien, ça fait quand même des chrétiens. Voilà. Dernier mot, l'ordre des livres de la Bible, pourquoi vous y retrouviez dans vos différentes Bibles. Et là, vous avez dans vos documents les listes comparatives des différentes Bibles. J'espère qu'il y est. Vous trouverez ça. Oui, voilà. Je vous explique le système. Et après, je m'arrête. La Bible hébraïque est construite... D'abord, ce sont des rouleaux, même si maintenant, ça fait des livres. Mais jusqu'au Xe siècle de notre ère, c'était des rouleaux. Les rouleaux, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Rouleau de la Genèse, vous pouvez le mettre où vous voulez. Il peut y avoir su des psaumes avant... La Bible hébraïque est construite, dans sa conception, en cercle concentrique. Au centre, la Torah. C'est l'essentiel, la loi. Et le judaïsme vit de la Torah. C'est ça qu'on lit, c'est ça qu'on pratique. Autour, les prophètes, parce qu'ils font écho à la Torah. Les prophètes, ils s'appellent Nébihim, en hébreu. Il y a eu des écoles de peinture qui sont appelées les Nabis, les prophètes, hein, au début du XXe siècle. Nébihim, les prophètes, qui lit autour. C'est moins à respecter strictement. C'est plus... voilà. Et autour encore, les Ketuvim, les écrits. Ketiv, c'est l'écrit. Dont les psaumes, qui est quand même essentiel. Les proverbes, les petits rouleaux, etc. etc. Le cantique des cantiques. Mais voyez, l'idée, ce sont des cercles concentriques. Et alors, du coup, on va lui donner comme nom TNK, Torah, Nébihim, Ketuvim. Seulement, vous ne pouvez pas prononcer TNK. Donc, on s'appuie sur des voyelles et on dit le Tanakh. Voilà. La Bible hébraïque, c'est le Tanakh. Ça veut dire Torah, prophète, écrit. Ça marche, ça ? Et autour, vous pouvez mettre encore d'autres cercles. La Mishnah, commentaire, et puis autre loi. La loi orale qui vient s'inscrire, la Gemara, et finalement l'énorme cercle du Talmud, vous voyez ? Ça va en gonflant par cercles successifs. La Bible chrétienne, qui articule un Ancien et un Nouveau Testament, c'est davantage pensé sur le mode historique et sur le mode du déroulement linéaire. C'est pour ça que je vous les ai mis les uns à la suite des autres. Du coup, on a remanié l'ordre des livres. La Septante commence à le faire, mais pas vraiment. Ça dépend des ce qu'on a comme manuscrit. De toute façon, nous n'avons de manuscrits de la Septante que à peu près, sauf des quelques restes dans le désert de Juda, mais que des manuscrits chrétiens. Donc c'est difficile de savoir ce qu'ont fait les Juifs. Manuscrits chrétiens de la Septante, en gros, on classe comme si c'était un déroulé historique. Pourquoi ? Parce que on est dans une religion de l'incarnation. Et que donc il y a un moment de l'histoire. Il y a une histoire qui prépare quelque chose. Et une histoire qui s'accomplit en Jésus de Nazareth. Ça marche ? Donc on va classer autrement. Les cinq premiers livres, bien sûr, non. Mais après, des livres historiques, où vous allez voir apparaître Ruth, qui est dans la périphérie des livres hébraïques. Là, elle va être au tout début, parce que son histoire se passe très tôt, à l'époque des juges. Donc là, on s'intéresse au moment du récit, pas au moment de sa rédaction. Ensuite, vous avez les écrits, et ensuite, vous avez les prophètes. Pourquoi les prophètes ? Parce que le dernier des prophètes, Malachie, annonce la venue du Seigneur et demande qu'on prépare la venue du Seigneur et dit qu'Élie va revenir pour préparer les chemins du Seigneur. Et vous ouvrez l'évangile de Luc, hein, et bien il cite le prophète Élie qui doit venir préparer le chemin du Seigneur. Et c'est Jean-Baptiste. Le lien se fait de l'Ancien au Nouveau Testament. Ça va ? À travers la fin du livre de Malachie et le début de nos évangiles, je le disais tout à l'heure. En fait, les chrétiens réorganisent et relisent les Écritures, la Septante, sous le prisme avec les normes aimants de la croix et de la résurrection. Alors, je n'ai pas pu faire un aimant, j'ai fait juste une barre, parce que l'aimant, c'est ce que c'est. Mais une barre aimantée, si bien que tout ce qui, dans l'Écriture, juive traduite en grec, mais juive aussi, d'une façon ou d'une autre, peut annoncer quelque chose de Jésus, Christ. Et vous avez vu tout à l'heure chez Amos, ils seront en deuil comme on pleure pour le deuil d'un fils unique. Tout ça, avec le prisme ou l'aimant de la croix et de la résurrection, on va dire, mais ça nous annonce, et voilà. Mais ça prépare. Déjà, l'Ancien Testament, de façon cachée, préparait Jésus-Christ. Vous mettez le bon aimant, et vous tirez la limaille de fer, celle au moins qui veut bien se laisser aligner. Ça va ? Vous voyez l'image ? Et c'est comme ça qu'on va dire qu'à la fois, le Nouveau Testament, bien entendu, relie l'Ancien et montre qu'il le prépare. Et on va dire, en régime chrétien, l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Il n'annonce rien du tout. Sous le prisme, la lumière sous l'aimant de la mort et de la résurrection, de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il y a des éléments importants qui se mettent en marche et viennent quelque part vous conduire jusqu'à, avec pas mal de troubles et de bruit sur la route. Ça va ? Voilà, je m'arrête là. Nous avons devant nous un petit moment, d'abord pour quelques questions, s'il y en a, si je ne vous ai pas trop perturbé. Le livre d'Isaïe, c'est au moins 1er Isaïe daté, 715 à 700, enfin, mettons, 715-700, une petite. Ça, on peut le dater très bien. 2e Isaïe, fin de l'exil, on peut le dater très bien, à 20 ans près, hein, 540 à 520. 3e Isaïe, plus tard, certainement autour de 450. Donc vous avez un bel écart, hein, vous avez 3 siècles et demi. Oui, l'araméen, c'est une langue parente, sémitique, parente de l'hébreu, qui a été beaucoup plus répandue que l'hébreu, qui était finalement la langue d'un petit groupe de tribus. L'araméen est une langue beaucoup plus répandue dans tout le nord-est du pays d'Israël, l'Extrême-Orient, et qui a pris beaucoup d'importance parce qu'il est devenu la langue, finalement, que les Babyloniens ont adoptée et que les Perses, surtout, venus de l'Est, ont adopté comme langue diplomatique. Les Perses ont été très, très malins. Ils ont respecté les traditions, les usages, du moment que les gens payaient et ne se révoltaient pas, très diplomates. Donc, ils ont adopté l'araméen comme langue diplomatique. Et comme leur empire allait jusqu'au sud de l'Égypte, éléphantine, et de l'autre côté, jusque quasiment en Grèce, hein, et là, l'Indus, ça faisait une langue uniformisée partout. Du coup, sous domination perse, le monde juif a gardé ses écrits en hébreu, mais s'est mis à parler araméen. Et donc, à l'époque d'Esdras, vers 400-450, où d'ailleurs il y a des fonctionnaires perses qui sont venus aider à reconstruire les murailles de Jérusalem, enfin ça allait bien, pas mal avec les Perses, les gens, sauf les lettrés, ne connaissaient plus l'hébreu, tout le monde parlait araméen. Et dans la proclamation d'Esdras que je vous ai signalée, Néhémie 8, on le lira, il est dit, et il y avait des gens qui traduisaient, pour que tout le monde comprenne. Donc déjà, on traduisait de l'hébreu en araméen, ce qui a été ensuite la pratique dans toutes les synagogues. Dans toutes les synagogues du monde juif, pas là où on parlait grec plus loin, mais de la Judée un peu autour, on lisait en hébreu la Torah et on traduisait verset par verset en araméen. Ça va ? Voilà. Donc, on s'arrête là. S'il n'y a pas d'autres questions, oui ? La quoi ? Oui, la livre est un collectif, oui. Oui, 24 livres en hébreu. Mais c'est le décompte de la Bible hébraïque qui compte 24 livres en hébreu. La Bible grecque en a beaucoup plus parce qu'ils en ont rajouté. Voilà. Oui, merci de me faire préciser. En plus, notre Bible grecque en a rajouté. Mais ça, on en reparlera. Alors, on s'arrête. Vous avez le libraire enfin là. On vous a attendu comme le Messie. Hein. Et ensuite, je vous laisse déjeuner. Et on reprend, si vous voulez bien, à 1h30 juste.